en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Séance exceptionnelle à l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 14 décembre 2009 pour dresser un bilan de la crise. Trois académiciens, Michel Pébreau, Bertrand Collomb et Jacques Delarosière, ainsi que deux économistes, Jean-Philippe Cottis et Michel Didier, ont exposé leur point de vue. S'ils sont revenus sur les causes profondes de la crise, ils ont surtout insisté sur les mesures à prendre pour éviter qu'elles ne se reproduisent. La crise est derrière nous, mais elle n'est pas terminée et la reprise n'est pas encore là. Ce bilan ne doit pas faire illusion, a dit Michel Pébreau. C'est un bilan de santé pour un monde fragile. Cette émission est la retransmission de cette séance inhabituelle. Elle permet d'écouter dans l'ordre les cinq intervenants qui ont présenté devant l'Académie des sciences morales et politiques ce bilan de la crise à la fin de l'année 2009.
Si vous me le permettez, je souhaiterais dédier mon exposé à notre regretté confrère Jean Foyer. Si j'ai cette audace, ce n'est pas seulement parce que nous venons d'élire son successeur à son siège dans cette Académie. C'est aussi parce que certains d'entre vous se rappellent peut-être que j'ai été conduit, il y a un peu plus d'un an, à improviser devant vous une analyse de la crise. C'était à la demande de notre secrétaire perpétuel au cours de la séance du 22 septembre 2008 où Jean Foyer était empêché par la maladie de prononcer l'une des conférences magistrales dont il avait le secret sur le latin et le droit. Vous m'avez demandé, cher président, d'essayer d'établir un bilan de la crise. Le terme de bilan ne doit pas faire illusion. Il ne signifie pas que la crise est terminée. Le bilan que l'on peut présenter relève plutôt du bilan de santé. Quelle est la situation actuelle de l'économie et du monde financier ? Après avoir rappelé les origines de la crise, j'essaierai de montrer que les interventions des États ont permis d'éviter le pire, mais que beaucoup reste à faire pour retrouver la santé. J'avais essayé d'analyser l'an dernier les enchaînements qui ont conduit à passer de l'éclatement assez classique d'une bulle du marché immobilier américain formée au terme d'une assez longue période de croissance économique à la crise d'un sous-compartiment du marché hypothécaire américain, les subprimes, à une crise des marchés de la liquidité et du crédit en août 2007, puis à une crise de l'ensemble de la sphère financière en septembre 2008, avec une perte de confiance d'une telle ampleur qu'elle a transformé le ralentissement cyclique de l'économie alors en cours en crise économique mondiale. Si le système a été aussi ébranlé, c'est que différents acteurs ont contribué à sa fragilité et que les failles les plus profondes se trouvaient en son cœur aux États-Unis. À l'origine de cette crise, il y a en effet à la fois de profonds déséquilibres macroéconomiques, les erreurs de gestion de certains établissements financiers, l'inefficacité de plusieurs régulateurs, surtout aux États-Unis, et ce que j'appellerais l'illusion du tout marché. Depuis des années, les paiements internationaux sont profondément et structurellement déséquilibrés. Les États-Unis consomment beaucoup plus qu'ils ne produisent et le déficit de leurs paiements courants a pour contrepartie les excédents de la Chine, du Japon, de l'Allemagne, des pays producteurs de pétrole qui épargnent plus qu'ils n'investissent. Cette situation n'a pu perdurer qu'au prix de politiques systématiques de facilité monétaire qui ont inondé les marchés de liquidités et encouragé les surendettements. Certains établissements financiers portent une lourde part de responsabilité. Ils ont accepté de prendre des risques inconsidérés, des risques de solvabilité en consentant massivement des crédits trop risqués, en particulier des crédits sur gage comme les subprimes, ou en donnant de façon excessive des garanties à certains crédits, comme le grand assureur américain AIG. Mais aussi, et surtout, en ne contrôlant pas leurs risques de liquidité. Les banques d'investissement américaines et certaines banques de détail, britanniques ou allemandes, n'avaient pas assez sécurisé le financement de leurs engagements à moyen ou long terme. La crise a en outre révélé de véritables escroqueries de grande ampleur, comme celle du fameux Madoff. La course à la rentabilité d'une partie du monde financier a joué un rôle manifeste dans les erreurs de gestion des établissements qui ont sombré. Certains régulateurs ont été défaillants, en particulier aux États-Unis. Si le système financier est régulé, c'est que l'histoire a permis de constater que les défaillances des entreprises financières ont des conséquences très lourdes pour la bonne santé de l'économie. La mission des régulateurs est d'éviter, par les règles qu'ils établissent et le contrôle qu'ils assurent, que les risques de solvabilité et de liquidité pris par les établissements financiers restent compatibles avec leur bonne santé en toutes circonstances, et notamment pendant les périodes de ralentissement économique. Force est de constater que le contrôle de la SEC n'a pas empêché des problèmes de liquidité des banques d'investissement américaines, ou que celui des organismes de contrôle des assureurs américains n'a pas évité la surexposition au risque des assureurs de crédit, les monolines, et que la Fed elle-même n'a pas vu venir les problèmes de solvabilité de certains très grands établissements, non plus que la faillite de nombreuses banques locales américaines. Et les faiblesses du contrôle bancaire ont été manifestes aussi dans plusieurs pays européens, comme l'Irlande, la Belgique, mais aussi au Royaume-Uni ou en Allemagne. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'illusion de liquidité qui a résulté d'une conception trop extensive des capacités des marchés des actifs financiers. Acheteurs et vendeurs d'actifs financiers en étaient venus à penser que le marché pouvait assurer à tout instant la liquidité de ses actifs. L'expérience a montré qu'ils se trompaient. À partir du mois d'août 2007, les marchés de la liquidité et du crédit se sont anémiés ou fermés. Au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, seuls les marchés des titres d'État, des actions et un ou deux des marchés de produits dérivés ont continué à fonctionner, et encore avec une volatilité assez anormale. Les normes comptables mises en place depuis quelques années sont largement responsables de cette illusion du tout marché. Elles se sont en effet fixées pour objectif de faire en sorte qu'à terme, tous les actifs et passifs financiers soient évalués dans les bilans de toutes les entreprises à leur valeur de marché, considérée comme seule juste valeur. C'est la full fair market value. Comment, dans ces conditions, s'étonner de l'illusion du tout marché ? Ces normes ont joué un rôle manifeste d'accélération et d'élargissement pour la crise financière, comme elles l'avaient fait auparavant pour les bulles d'actifs dans la phase d'exubérance des marchés. Les agences de notation ont également contribué à la réalisation de la crise. Leurs notations des instruments financiers ont parfois été erronées et elles n'ont pas su éviter quelques situations de conflit d'intérêts. Mais surtout, leurs notations ont été trompeuses, car elles ont pu laisser penser que la question de la liquidité de ces instruments n'était pas essentielle. La faillite de Lehman Brothers a créé à l'automne 2008 une crise de confiance sans précédent vis-à-vis du monde financier au niveau mondial. Tous les détenteurs de capitaux se sont écartés des établissements qui leur paraissaient vulnérables et des instruments financiers dont la qualité n'était pas solidement assurée. Ce « fly to quality », comme disent les anglo-saxons, sans précédent, aurait pu déclencher une crise systémique du système financier. Celle-ci n'a pu être évitée que grâce à l'intervention massive et coordonnée des banques centrales d'abord, qui étaient intervenues depuis l'automne 2007, et des États ensuite, les banques centrales affirmant qu'elles assureraient la sécurité des avoirs, la liquidité des banques, et les États assurant qu'ils assureraient la sécurité des avoirs des déposants. La réunion à Paris de l'Eurogroupe, élargie au Premier ministre britannique le 21 octobre, a joué un rôle essentiel dans l'interruption de la crise systémique qui était en route, d'autant qu'elle s'est accompagnée, elle a pu accompagner un plan d'aide aux grandes banques américaines qui a été simultanément mis en œuvre aux États-Unis. Le risque systémique a ainsi écarté, le rôle a été ainsi écarté, le rôle joué à ce moment par les responsables français a été décisif. La crise de confiance avait parallèlement provoqué un arrêt presque généralisé des embauches des entreprises, de la consommation des ménages, des investissements des uns et des autres. Les plans de soutien à l'économie engagés partout dans le monde ont permis d'éviter que la forte récession qui en est résultée se transforme en dépression de l'économie mondiale. Là encore, la coordination des différents États a pu être assurée au niveau européen et au niveau mondial. Les réunions, en effet, des instances européennes et du G20 au niveau mondial ont fourni l'opportunité d'affirmer la volonté d'éviter la dépression économique et la volonté aussi d'éviter tout protectionnisme et de coordonner les politiques des grands pays, c'est-à-dire d'éviter le risque d'un repli sur soi de chaque pays et les poussées nationalistes. L'intervention des États a donc permis d'éviter le pire. Mais beaucoup reste à faire pour que l'économie mondiale retrouve sa santé. Les conditions d'une croissance durable et équilibrée ne sont pas encore rassemblées. La mise en place d'une régulation efficace et mondiale du monde financier se heurte à des obstacles qu'il faut surmonter, et il est indispensable que celles des établissements financiers, qui ne doivent leur salut qu'au soutien des contribuables, subissent les conséquences et tirent les leçons du naufrage qui leur a été évité. Enfin, les risques de désordre monétaire et de repli protectionniste doivent être conjurés. Tout d'abord, donc, les interventions publiques ont permis de ranimer la croissance économique. De ce point de vue, deux catégories de pays doivent être soigneusement distinguées. Les pays émergents, d'un côté, en partie les pays asiatiques et une partie des pays d'Amérique latine, ont retrouvé une croissance économique comme après une crise ordinaire. La crise est pour eux passée. Il n'en va pas de même pour les pays d'Europe occidentale et les États-Unis, qui, certes, ont réussi à arrêter la récession économique, et l'on peut considérer qu'au troisième trimestre 2009, seuls l'Espagne, l'Irlande et quelques autres pays d'importance moyenne connaissent encore une contraction de leur production économique. Tous les autres pays ont stabilisé leur situation ou repris une marche en avant. Mais la différence est grande entre les pays émergents et les pays industrialisés. Cela signifie que les prochains mois seront décisifs pour savoir dans quelles conditions la reprise va s'effectuer. Et de ce point de vue, trois types de problèmes sont devant nous. Le premier type de problème, ce sont naturellement les problèmes qui aient préexisté auparavant, c'est-à-dire les déséquilibres macroéconomiques et l'excès de liquidités. Force est de constater que le sauvetage de l'économie mondiale a provoqué un nouvel afflux de liquidités de la part des banques centrales. La question budgétaire est aujourd'hui posée, pratiquement dans tous les pays du monde. Les déficits publics ont été creusés et les dettes publiques fortement accrues. Il faudra bien corriger ces déséquilibres. Et enfin, la crise aura accéléré le mouvement de redistribution internationale du travail, de répartition nouvelle du travail qui était en cours dans le monde du fait de la mondialisation. Il ne fait pas de doute que chaque pays doit faire les efforts structurels nécessaires pour s'adapter à cette donne nouvelle. Du côté des banques, il est clair que les banques ont échappé, pour celles qui étaient les plus menacées, à la crise, mais toutes les banques ont échappé au risque systémique qui les menaçait. De ce point de vue, deux types d'interventions ont eu lieu du côté de l'État, des États. Ces deux types d'interventions sont, d'un côté, des plans de soutien à l'ensemble du système bancaire qui visaient fondamentalement à rétablir la confiance dans les banques en assurant aux épargnants que, quoi qu'il arrive, leurs fonds seraient préservés. De l'autre, des programmes d'action individualisés, personnalisés sur certains établissements qui, à défaut de tels programmes, auraient sombré dans une faillite dommageable pour l'ensemble du monde financier. Aujourd'hui, les premières catégories de concours sont en voie de remboursement ou définitivement remboursées. Il n'en va pas de même des secondes qui sont encore en cours pour un bon nombre d'entre elles et qui ont des conséquences qui doivent être corrigées. Les premières de ces conséquences sont que ces entreprises ont été sauvées sur un plan pratique au détriment en quelque sorte de leurs concurrents alors que leur gestion aurait justifié leur disparition. Il est donc nécessaire de faire en sorte que leur survie se poursuive dans des conditions qui assurent l'égalité de concurrence vis-à-vis des établissements normaux. En ce qui concerne le deuxième problème, il est celui de savoir dans quelle mesure ces entreprises sont susceptibles de revenir dans le monde normal, ce qui suppose d'une part qu'elles soient à même de rembourser les concours publics qui aient été accordés, et d'autre part qu'elles aient accepté un certain nombre de restrictions de leur périmètre qui soient les conséquences des abus et des excès auxquels elles s'étaient livrées. Cette action a été engagée avec détermination dans le cadre européen. Elle n'est pas même imaginée dans le cadre américain, ce qui signifie que les distorsions de concurrence risquent d'être grandes entre les deux continents. Mais le plus important est ailleurs, il faut que les établissements bancaires, tous les établissements bancaires, tirent les conséquences dans leur gestion individuelle de la crise qui s'est réalisée. Et donc que le retour aux fondamentaux de l'activité bancaire soit la règle du jeu dans chacun de ces établissements. Ce retour aux fondamentaux, c'est naturellement le service des clients, particuliers et entreprises, sous toutes ses formes, les innovations nécessaires pour assurer ce service et surtout la mise en place de contrôle des risques exigeants de façon à assurer le rôle de centrale des risques qui doit être celui de tout établissement financier. Du côté des régulateurs, les accords du groupe des 20 ont conduit normalement à définir un cadre à partir duquel l'avenir de la régulation devait être solidement assuré. Toutefois, dans la mise en œuvre de ces accords nouveaux, qui devraient être pris dans le cadre du comité de Bâle, responsable au niveau international de l'élaboration des règles des systèmes de régulation, il est indispensable d'éviter de bien cibler les actions qui seront engagées. Il est tout d'abord nécessaire d'éviter toute surréaction à la crise qui serait dommageable à l'économie. En effet, si la conséquence de la crise est d'accroître d'une façon massive et indifférenciée les fonds propres demandés aux établissements bancaires, cela aura pour conséquence de réduire le volume du crédit distribué et d'augmenter le coût de ce crédit. Toutes mesures qui sont peu favorables à la croissance économique dont j'indiquais tout à l'heure qu'elle était aujourd'hui encore compromise. En deuxième lieu, ces mesures seront beaucoup plus dommageables à l'économie européenne qu'à l'économie américaine. En effet, l'économie européenne est financée à près des deux tiers par l'intermédiation bancaire, alors que la part de cette intermédiation bancaire dans le financement de l'économie américaine n'est que de 30%, en raison de la place qu'occupent les marchés dans le financement américain. On voit bien donc que sur ce terrain, les intérêts économiques des Européens et des Américains sont profondément différents. Évitez donc le risque de surréaction. Évitez aussi le risque de fragmentation. Aujourd'hui, le groupe des 20 a décidé que les accords de Bâle II, qui sont les derniers accords établis en matière de régulation bancaire, corrigés à la lumière de la crise et de ses origines, soient appliqués par tous les établissements bancaires dans le monde. Ceci ne paraît pas aujourd'hui totalement décidé. Plus grave, la crise a mis en évidence les faiblesses de certaines régulations bancaires et notamment de la régulation américaine. Or, la réforme de la régulation américaine est actuellement complètement immobilisée. Les idées du président des États-Unis, qui sont de renforcer le rôle de la Federal Reserve, n'étant pas cohérentes avec celles qui sont avancées au Sénat aussi bien qu'à la Chambre des représentants et qui sont de réduire le rôle de la Fed, l'un et l'autre d'ailleurs n'étant pas d'accord sur la façon de procéder. Dans ces conditions, on voit bien que l'amélioration de la régulation n'est pas assurée. En Europe, grâce au rapport de Jacques de la Rosière, un progrès décisif a été accompli qui a conduit à créer une nouvelle institution européenne qui a la capacité d'exercer une régulation dans les trois domaines classiques de régulation financière. Mais cette décision a été le résultat d'un compromis et elle reste encore assez largement à mettre en œuvre dans la pratique. Enfin, le dernier risque à éviter en matière de régulation, c'est le risque d'évitement. Ce risque d'évitement est un risque de voir les régulateurs ne pas traiter les vrais problèmes qui se sont posés. Alors, ces vrais problèmes sont d'abord des problèmes du côté de la solvabilité. Et là, on retrouve la question que j'ai évoquée de l'application partout dans le monde des règles de Bâle II, aujourd'hui non assurée au niveau des banques américaines. Et le Parlement américain acceptant apparemment pour l'instant l'idée de ne pas appliquer rapidement ces accords. Le deuxième sujet d'évitement est de savoir de quelle façon, quel sera le cadre de la régulation à venir. Jusqu'à présent, la régulation au niveau international a essentiellement porté sur le risque de solvabilité des banques. Je vous indiquais tout à l'heure que l'une des causes de la crise telle qu'elle s'est réalisée se situait au niveau du risque de liquidité. Il est indispensable de traiter le risque de liquidité au niveau international par des règles précises qui permettront d'éviter la répétition des erreurs du passé. Ces règles doivent comporter d'une part la mise en place de modèles permettant de gérer l'actif et le passif de la banque. Deuxièmement, par la mise en place de stress tests qui permettent de s'assurer que ces modèles sont efficaces. Et troisièmement, par une gouvernance de la trésorerie de la banque qui permettra d'assurer que, quoi qu'il arrive, le système de gestion de la liquidité est bien coordonné. Le dernier domaine dans lequel des progrès doivent être accomplis pour permettre d'assurer la reprise de l'économie est celui de l'élimination des risques qui peuvent peser sur la poursuite du processus de mondialisation. Je situerai ces risques à trois niveaux qui, vous le verrez, vous paraîtront d'importance inégale et qui pourtant, dans mon esprit, sont d'importance égale. Le premier de ces niveaux est celui des normes comptables. Je pense que le monde a besoin d'avoir des normes comptables unifiées, internationales, pour assurer une présentation identique dans tous les pays du monde, et donc au niveau et dans tous les marchés du monde, des résultats des entreprises concernées. Mais il est indispensable que ces normes n'aient pas, en quelque sorte, pour principale conséquence de guider la gestion des entreprises en direction du tout marché dont j'ai condamné tout à l'heure les excès. Il faut donc revenir, non pas à une prise en main par les responsables politiques de la définition des normes comptables, mais bien à la définition par ces responsables politiques et de façon coordonnée au niveau international des principes qui doivent être mis en œuvre par les comptables pour établir de façon indépendante de toute immixtion politique ou technique les normes comptables à appliquer. Ces principes sont relativement simples. La comptabilité doit permettre d'apprécier au niveau du compte d'exploitation la qualité de la gestion des responsables concernés. La comptabilité doit permettre d'apprécier au niveau du bilan la valeur d'usage des actifs et des passifs de l'ensemble des éléments du bilan concerné. La comptabilité doit enfin être établie avec un principe général de prudence qui doit permettre de faire en sorte qu'au-delà des risques immédiats qui peuvent être devant les responsables de l'entreprise concernée, on songe un peu à la réalisation du cycle et donc à la nécessité de mettre de côté les fonds nécessaires pour faire face aux problèmes de l'avenir. Le deuxième domaine dans lequel la mondialisation est aujourd'hui en risque et qui nécessite en effet aussi des décisions est celui du système monétaire international. L'expérience a montré que les marchés d'échange pouvaient connaître à certains moments une très grande volatilité. Elle a montré aussi que dans certaines périodes, les orientations tendancielles du marché d'échange pouvaient apparaître en contradiction avec les évolutions de l'économie réelle telle qu'elle peut être observée. Il est donc aujourd'hui indispensable de réfléchir à nouveau à la question de l'organisation monétaire internationale. C'est un sujet qui était au centre des réflexions des alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque, en 1944, ils ont abouti aux accords de Bretton Woods, qui a donné lieu à la création du Fonds monétaire international. Ces idées ont été un peu oubliées et le Fonds monétaire international a été quelque peu dévoyé dans l'action qui était la sienne. Il est indispensable de ramener le Fonds monétaire international à l'essentiel de sa politique, qui est à la fois d'assurer l'équilibre général des paiements internationaux, quels que soient les pays concernés, et même si les pays structurellement déficitaires sont les États-Unis et structurellement excédentaires le Japon et la Chine. Il est indispensable aussi que ce Fonds monétaire international retrouve les capacités d'action qui étaient les siennes à l'origine en matière de taux de change, non pas selon les formules du passé, personne ne songe à un retour à l'étalon-or, mais bel et bien en fonction des besoins de l'avenir. La question monétaire internationale me semble être au centre du retour de l'économie mondiale à une croissance durable et équilibrée. Enfin, il est indispensable de lutter contre la tentation protectionniste, laquelle est toujours présente et a été, si je puis dire, très influente pendant l'ensemble de la crise financière. Il est frappant, par exemple, de constater que, alors que le système financier international était totalement ébranlé, la quasi-totalité des restructurations qui se sont effectuées dans un cadre national et que la plupart des plans d'aide qui ont été mis en œuvre, ici ou là dans le monde, ont été assortis de conditions afférentes au financement de l'économie nationale. Les risques d'un retour à un protectionnisme de forme nouvelle sont aujourd'hui très élevés. Le seul cas d'ailleurs, la seule exception en matière de restructuration bancaire a été la prise de contrôle de Fortis Belgique par le groupe BNP Paribas. Toutes les autres opérations ont été purement nationales. Dans le même temps, il est frappant de constater qu'alors que le groupe des 20 a réaffirmé chaque fois qu'il s'est réuni l'importance de l'aboutissement des accords de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire du cycle de Doha, celui-ci est toujours en suspens et les dernières conversations, les dernières négociations qui ont été engagées à Genève n'ont pas permis d'aboutir. Il est indispensable de faire aboutir ce cycle de façon à pouvoir éviter, je le répète, tout risque de voir ici ou là un pays recourir à des mesures protectionnistes déclenchant de ce fait un enchaînement qui mettrait en cause la mondialisation. La poursuite de la mondialisation est en effet, et ce sera ma conclusion, notre avenir. La poursuite de la mondialisation, c'est en effet la plus sûre façon d'assurer la croissance économique mondiale dans les années à venir. Certes, la mondialisation conduit à de nouvelles répartitions internationales du travail avec le flot de problèmes humains, régionaux, économiques et financiers qui accompagnent en permanence ces changements dans la répartition internationale du travail. Mais la mondialisation, c'est aussi le gage d'une croissance économique accélérée. C'est bien le développement des échanges internationaux qui a permis les 30 glorieuses pour l'Europe de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est bien le développement des échanges internationaux qui a permis, dans les années récentes, à nombre de pays émergents de sortir du sous-développement, à des centaines de millions d'êtres humains de sortir de l'état de famine et d'incertitude vis-à-vis des problèmes de la vie. Pour garder le chemin de la mondialisation, il est nécessaire de ranimer, d'une part, une volonté de coordination et, d'autre part, un esprit de coopération. Une volonté de coordination parce que c'est seulement au prix d'une coordination étroite entre les grands pays concernés, c'est-à-dire d'abord les pays du groupe des 7, ensuite les pays du groupe des 20, que pourront être assurées les coordinations des politiques économiques et monétaires nécessaires pour remettre l'ensemble des pays à un niveau de croissance économique correspondant à leur potentiel de croissance. Un esprit de coopération parce que il est clair que dans plusieurs des domaines que j'ai évoqués, la nécessité d'accords internationaux sur la base de la création d'institutions internationales ou sur la base d'obligations internationales très contraignantes dans l'application, des accords internationaux donc sont nécessaires pour réaliser pour atteindre les objectifs concernés. Ces objectifs sont simples, c'est la stabilité financière internationale d'un côté, c'est aussi d'un autre côté la normalisation des systèmes comptables, c'est la régulation bancaire et financière, et c'est enfin, on peut le dire aujourd'hui lors du sommet du Copenhague, la réalisation de règles internationales sur l'environnement. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre patience, mesdames et messieurs, de votre attention.
Monsieur le Président, Michel Pébreau nous a donc bien expliqué les circonstances de la crise financière et économique que nous traversons et la difficulté que nous pourrons pour en sortir. Il n'est pas très facile de parler après lui. Mais ce qui me paraît particulièrement intéressant dans cette crise, c'est qu'il en existe plusieurs lectures complètement différentes et qui, au lieu de s'exclure, se complètent. Alors, je ne reviendrai pas sur l'analyse du financier qui a déjà été exposée. Le macroéconomiste, lui, verra dans la crise le résultat d'une croissance dopée, comme l'a dit Michel Pébreau, rendue possible seulement par les déséquilibres des balances commerciales et des balances de paiement non soutenables sur le long terme. Les consommateurs américains ont donc, pendant plus d'une dizaine d'années, consommé à crédit en se finançant notamment à l'aide de la Chine. Et c'est donc le fait que l'Amérique vivait au-dessus de ses moyens qui a provoqué la correction violente que représente la crise. Et on observera de plus que l'existence d'un circuit qui recyclait l'épargne des pauvres pour financer l'endettement et les investissements des riches n'était probablement pas un système tout à fait optimal. L'analyse des phénomènes de régulation, lui, verra une période pendant laquelle la croyance à la perfection des marchés et à leur autorégulation a été érigée en un dogme, où la Banque fédérale américaine pensait possible d'abolir les cycles économiques en fournissant à l'économie des ressources à bon marché et en fermant les yeux sur les bulles spéculatives, qu'elles soient boursières ou immobilières. C'est donc l'école de Chicago qu'il blâmera pour avoir imposé des modèles, certes puissants, mais trop éloignés des réalités. Et il regrettera que la première sortie de route, celle du fonds LTCM précisément dirigé par deux ou trois prix Nobel d'économie en 1998 n'ait pas été vu comme un premier avertissement de l'instabilité du système. Le sociologue, quant à lui, aura une approche différente. Il verra dans la période pré-crise une évolution des rapports sociaux et l'équilibre des pouvoirs dans nos sociétés. Alors que les efforts des années 50 à 70 avaient été consacrés à réduire les inégalités sociales et à construire des filets de sécurité pour que nul ne puisse se trouver dans une situation de détresse sans une assistance de la collectivité, les années 80-90 ont vu, par un virage idéologique très sensible, la célébration du fort, de celui qui, par ses talents et par son acceptation du changement, pouvait faire bouger notre société vers une efficacité plus grande. Le résultat a été une très forte croissance mondiale pendant un certain temps, mais aussi une forte hausse des inégalités, moins d'ailleurs en France qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, tandis que le niveau de vie de l'école bleue stagnait en niveau absolu et donc reculait en valeur relative, le pourcent des Américains au plus haut revenu, qui recevait 10% du revenu total américain en 1970, en prélevait 25% en 2006, atteignant les niveaux connus seulement dans la période 1920-1930. Pour notre sociologue, c'est clairement cette explosion des inégalités et la rupture du consensus social qui en résulte, qui est, comme en 1930, la vraie raison de la crise. L'environnementaliste, lui, n'aura pas de peine à nous montrer que le niveau de la croissance de la population et de la production allait, s'il se prolongeait sans action correctrice, se heurter aux limites de notre planète. Limites dans sa capacité à fournir des matières premières et à absorber les pollutions de tout genre. Limites surtout, résultant de la génération par l'homme d'un réchauffement climatique, susceptible de lui créer, à une échéance courte de quelques dizaines d'années, des problèmes insurmontables. Sans bien savoir comment relier cette constatation avec la chronologie de la crise, notre environnementaliste y verra un avertissement providentiel sur le chemin de l'abîme. Enfin, le spécialiste géopolitique, lui, aura constaté les changements de notre monde depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le poids croissant des pays d'Asie et notamment de la Chine, se sentant appelé à devenir, ou pour les Chinois, à redevenir la puissance la plus forte du monde. Il aura aussi vu que, finalement, dans notre monde globalisé, les modèles ancestraux fondés sur la souveraineté des États, le modèle dit westphalien, datant donc du traité de Westphalie de 1648, ne pouvaient pas faire face au terrorisme, au trafic de drogue, aux crimes organisés, aux épidémies, au réchauffement climatique, à la pollution des océans ou à la disparition des espèces animales. D'évidence, une nouvelle organisation s'imposait et il fallait sans doute une crise pour y arriver. Alors, il est bien difficile de prouver le lien de ces différents points de vue avec notre crise financière, sauf à recourir à la théorie du tout et dans tout et réciproquement. Mais il est certainement vrai que les problèmes dénoncés se posent de façon cruciale et que la crise, en remettant en cause les équilibres établis et les vitesses des évolutions, oblige à les considérer. Michel Pébreau a excellemment décrit les évolutions économiques prévisibles dans les prochaines années et les incertitudes dont nos prévisions sont entachées. Je voudrais me concentrer ici sur les évolutions structurelles qui sont nécessaires pour stabiliser notre monde quand il va reprendre, espérons-le, la vitesse de croissance nécessaire de toute façon à la satisfaction des besoins des terriens les plus pauvres. D'abord, les relations économiques entre les États-Unis et le reste du monde. A-t-on une chance de voir se résorber les twin deficits excellemment dénoncés par les économistes depuis plus de 10 ans? Il faudrait que les Américains se remettent à épargner. De façon surprenante, ils le font, puisque l'épargne des ménages américains a monté à presque 7%, un niveau record. Il faudrait que les Chinois consomment. Là aussi, ils le font. Il faudrait aussi que l'épargne des pays émergents soit le capital dont ces pays ont besoin pour investir, au lieu de se diriger vers les pays occidentaux et les États-Unis. Mais en même temps, ces évolutions ne peuvent pas être trop brutales, car les économies ne les supporteraient pas. Dans une réunion internationale récente, organisée à Marrakech par notre confrère Thierry de Montbrial, j'ai pu entendre Kemal Derviş, un ancien ministre des Finances turc, ancien directeur général de l'UNDP, le Programme de développement des Nations Unies, qui esquissait le scénario idéal. Un excédent chinois passant de 10 à 12% du PIB chinois à seulement 5 ou 6. Un déficit américain réduit à 2% du PIB. Et un déficit des autres pays émergents, qui ont besoin de l'argent chinois, de 4% de leur PIB. Ce scénario idéal a-t-il une chance? Et les Américains pourront-ils se désintoxiquer en douceur de l'endettement? La difficulté qu'a la démocratie américaine, comme d'ailleurs la démocratie française, à accepter des solutions désagréables, n'est pas de bon augure. Et peut-être faudra-t-il, pour que les corrections nécessaires s'imposent, qu'il y ait davantage de drames, un dollar qui s'effondre, et ou des Chinois qui ne veulent plus investir en dollars, ce qui derrière aboutira au même résultat. Alors sur le front de la régulation financière, comme l'a dit Michel Pébreau, il est encore difficile de savoir ce qui va se passer. Du côté de l'administration du Congrès américain comme de la Commission européenne, des réglementations plus contraignantes sont en préparation. On risque de demander plus de fonds propres et des cotisations d'assurance aux banques, notamment les plus grandes, celles qui bénéficient de la doctrine du « too big to fail ». Le trading pour compte propre, activité de spéculation redevenue très rentable, est en ligne de mire. Et la Commission européenne a comme cible les hedge funds. Ils n'ont pas vraiment été à l'origine de la crise et ils s'en sont sortis sans drame public, au prix de contractions souvent drastiques. Mais ils représentent une grande part des transactions sur les marchés, contribuent sans doute à leur volatilité et sont par nature des acteurs très opaques. Il faudra encore plusieurs mois pour que la situation se clarifie et la section économie de votre compagnie a prévu de consacrer sa réunion plénière annuelle à ce sujet de la régulation financière. J'espère que nous pourrons vous en dire plus dans quelques mois. Le risque principal est qu'une divergence entre les règles imposées dans les différentes zones géographiques conduise à la fois à des transferts massifs d'activités et à une inefficacité globale. Alors sur le sujet des inégalités, le projecteur a été mis sur le bonus des traders et sur la rémunération des dirigeants des grandes sociétés cotées. Mais honnêtement, il s'agit plus d'un symptôme que d'une cause des dérives constatées. Et les mesures prises, bien intentionnées, sont relativement anecdotiques. Si par contre la profitabilité et le développement du secteur financier étaient durablement contraints, ceci aurait sans doute un impact. Mais une économie libérale dynamique et globalisée continuera de toute façon à créer des opportunités fortes d'enrichissement pour ceux qui savent en profiter. Alors voudra-t-on revenir aux dispositifs fiscaux de redistribution que l'on a connus ? Il faudrait de toute façon que la tendance soit mondiale pour que des délocalisations fiscales ne permettent pas d'y échapper. Le scénario le plus probable est une augmentation modérée des taux d'imposition marginaux, utile de toute façon pour combler les déficits budgétaires, mais qui poserait en France le problème du bouclier fiscal. Alors je ne m'étendrai pas sur le problème environnemental. La préparation de la conférence de Copenhague se déroule, plutôt la conférence de Copenhague se déroule sous nos yeux. Il me semble y avoir une bonne chance de parvenir, sinon à un accord global, du moins à un ensemble d'engagements et de mesures qui décideraient une inflexion sans doute encore insuffisante des émissions de CO2. Mais il me semble que les deux conséquences les plus importantes des mouvements en cours concernent d'une part la gouvernance mondiale et d'autre part le rôle respectif du marché et du politique dans notre société. En matière de gouvernance, la place prise par les délibérations du G20 en matière financière et le processus de négociation mondiale sur l'effet de serre reflète une véritable prise de conscience de la nécessité de régulation mondiale. On doit espérer que ce mouvement se renforcera et trouvera des formes d'organisation permanente qui restent efficaces. Sur l'orientation de notre système économique, elle a essentiellement reposé au cours des dernières décennies sur les choix des marchés, reflétant ceux des consommateurs et reléguant le pouvoir politique au rôle de metteur en scène d'une volonté qu'il ne pouvait pas contrôler. Au contraire, la réduction d'effet de serre, si elle devient vraiment la priorité, obligera à contraindre les choix des consommateurs au nom d'objectifs globaux. Ce n'est plus le marché qui décidera quelles voitures doivent être fabriquées, mais ce sera les limites d'émissions de CO2. Et même si on s'efforcera d'utiliser le marché pour trouver les solutions décentralisées les plus efficaces au problème global, ça sera un marché instrumentalisé, manipulé, et non plus un marché souverain. Et l'ampleur des changements technologiques, économiques et sociaux nécessaires ne pourra sans doute pas être effectuée sans des interventions massives des États, par des programmes de recherche, par des aides au développement de nouvelles technologies ou par des incitations fortes au changement de comportement des consommateurs. Nos responsables politiques au niveau mondial vont donc se voir à la fois empêtrés dans des déficits budgétaires, bien en peine d'obtenir les consensus nécessaires à des mesures difficiles de redressement, mais investis d'énormes responsabilités pour guider les nouvelles directions de la croissance durable. Décidément, le 21e siècle va être un siècle intéressant.
thème que je souhaite aborder cet après-midi est celui de la coordination macroéconomique internationale et de son rôle dans la sortie de crise. Pour ce faire, je m'appuierai sur l'expérience acquise il y a quelques années en tant qu'économiste en chef de l'OCDE, et les analyses que je vais développer n'engagent donc ni l'INSEE ni la rue de Bercy. La crise que nous traversons est certes une crise d'origine financière, et beaucoup d'efforts sont d'ores et déjà accomplis pour réformer et rénover le système financier. Il s'agit là d'une œuvre de longue haleine, d'une grande complexité, qui nécessitera une étroite collaboration internationale. Mais cette crise financière a elle-même des origines macroéconomiques très profondes. Elle renvoie en particulier aux difficultés que rencontrent les pays industrialisés et les grandes économies émergentes à coordonner leur politique macroéconomique et structurelle. Il y a aujourd'hui un désaccord latent sur les règles du jeu macroéconomique international, désaccord qui tend à fragiliser l'économie mondiale. Pour retrouver une croissance mondiale à la fois soutenable et moins accidentée, il paraît souhaitable d'infléchir un certain nombre de dérives qui ont caractérisé tout à la fois les États-Unis et de grandes économies asiatiques telles que la Chine. Pour dire les choses de manière plus concrète, la remontée inéluctable du taux d'épargne américain devrait s'accompagner d'une réduction de la surépargne asiatique. Et si tel n'était pas le cas, l'économie mondiale et notamment l'Europe courraient le risque d'un ajustement par le bas de l'activité économique. Des institutions comme le G20 arrivent donc à point nommé pour traiter ces sujets difficiles de régulation économique mondiale, mais leur tâche n'en sera pas facile pour autant. D'un point de vue historique, l'économie mondiale se trouve aujourd'hui dans une situation profondément paradoxale. Historiquement, la règle avait toujours été jusqu'ici que les économies mûres finançaient les jeunes économies. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, par exemple, le Royaume-Uni avait financé l'accumulation du capital aux États-Unis d'Amérique. Dans la grande famille anglophone, les parents britanniques, entre guillemets, avaient en quelque sorte financé leur progéniture américaine avec l'espoir, plus tard, d'en recevoir des dividendes. Une jeune économie, si elle est bien gérée, offre en général des perspectives de rendement du capital plus élevées qu'une économie mûre. Les gains de productivité y sont potentiellement très élevés, ce qui attire les investissements étrangers. Mais ce modèle naturel de développement économique semble avoir été aujourd'hui abandonné pour des raisons qui relèvent sans doute de considérations géopolitiques. Le paradoxe de la situation actuelle tient au fait que les économies jeunes se sont mises en tête de financer des économies mûres. Un pays comme la Chine fait partie de ces jeunes économies dans la mesure où son potentiel de croissance est immense. La Chine peut en effet s'appuyer sur des gains de productivité considérables. Il lui suffit de s'inspirer des bonnes pratiques existantes au plan international en matière technologique, voire de les améliorer, pour obtenir des taux de croissance très élevés. La Chine dispose aussi de réserves importantes en matière d'emploi. Il serait donc, dans l'ordre des choses, que la Chine soit, comme les États-Unis d'antan, importatrice nette de capitaux. Cet afflux de capital étranger aurait pour conséquence une appréciation du renminbi, qui serait intensément demandée sur les marchés de change, par les investisseurs étrangers souhaitant investir en Chine. Cette appréciation du change entraînerait alors une dégradation du solde commercial chinois, déficit commercial et excédent de la balance en capital. Telle devrait être la configuration optimale du point de vue de l'économiste désincarné, bien sûr, pour l'économie chinoise. Nous observons aujourd'hui, paradoxalement, la situation inverse, avec une forte propension des pays émergents à l'excédent commercial. Et je crois qu'à l'origine de ces stratégies, il y a sans doute des raisons géopolitiques liées au souci de dépendre le moins possible des capitaux étrangers. Cette propension aux excédents extérieurs intervient cependant dans une période où les candidats naturels à l'excédent commercial se bousculent en raison de leurs rentes pétrolières et gazières, l'Arabie saoudite, les Émirats, la Russie. De tout cela est résulté ex ante un excès d'épargne mondial. Des économies émergentes cherchent à prêter coûte que coûte à des économies mûres dont l'appétence pour l'investissement est plus faible car elles ont déjà bénéficié d'une longue période d'accumulation du capital. Ces stratégies ne pouvaient conduire à terme qu'à surfinancer les économies mûres d'Europe et d'Amérique du Nord. Des flux massifs d'épargne étrangère sont ainsi venus financer des secteurs à faible rendement et à risque élevé, tels que l'immobilier, alors qu'ils avaient déjà atteint aux États-Unis et en Grande-Bretagne un degré élevé de saturation. Dans ces deux pays, la faiblesse de la régulation financière, donc dans les pays anglo-saxons, la faiblesse de la régulation financière et immobilière a fait l'objet de critiques sévères et amplement justifiées. Les systèmes existants de régulation financière y sont appelés à subir des transformations considérables. Mais au-delà des défaillances de la régulation domestique, il est clair qu'un tel afflux de liquidités étrangères, à la fois massif et récurrent, ne pouvait à terme qu'aggraver les choses et exercer une influence émolliente et corrosive sur la régulation économique et financière aux États-Unis. En période d'argent facile, la discipline économique et financière est souvent mise à mal. La réforme et la refonte des institutions financières dans les grands pays industriels sont donc indispensables, mais on peut penser qu'elles ne produiront pleinement leurs effets que si tous les déséquilibres financiers se résorbent en parallèle et que des réformes sont conduites en Asie pour résorber une surépargne chronique. Au-delà des inflexions de politique macroéconomique, des réformes de structure sont par ailleurs nécessaires pour résorber les déséquilibres extérieurs. Ces réformes doivent contribuer en outre à accroître la croissance et le bien-être. Les excédents extérieurs ne sont pas en soi condamnables, dès lors qu'ils ne résultent pas de politiques artificielles créatrices de distorsions économiques. Des pays riches et vieillissants, comme le Japon ou l'Allemagne, peuvent être, par exemple, légitimement appelés à placer leur épargne pour partie à l'étranger, dans des pays aux perspectives plus prometteuses. Tout est ensuite affaire de proportion. Et on peut penser que le Japon et l'Allemagne pourraient malgré tout mieux faire en termes de stimulation de la demande interne et de réduction de leurs excédents commerciaux. Parmi les sources d'excédents artificiels, on peut noter aussi les politiques de change mercantilistes et les situations de surépargne reflétant des défaillances institutionnelles internes. Les politiques de change mercantilistes sont très répandues en Asie, qu'il s'agisse de la Chine ou des économies qui gravitent dans sa sphère d'influence. La politique actuelle d'appréciation à minima du yuan n'est d'ailleurs pas de nature à réduire notablement les excédents chinois. Mais au-delà des politiques de change, les excédents chinois reflètent aussi des difficultés structurelles internes qui peuvent être difficilement remédiables. L'une des grandes difficultés tient par exemple au fait que le citoyen chinois est son propre assureur. La protection sociale de facto de l'ancien régime communiste a disparu, il n'y a pas encore d'État-providence et les marchés financiers ne sont pas suffisamment développés pour organiser une véritable mutualisation des risques. Être son propre assureur pour le chinois moyen, cela signifie épargner en vue des sinistres potentiellement les plus graves, ce qui génère nécessairement une surépargne. Entreprises et ménages confondus, le taux d'épargne des Chinois atteint 50% du PIB. L'investissement, qui atteint 40% du PIB, est lui-même très élevé, mais il reste un écart de 10 points de PIB, d'épargne excédentaire, c'est-à-dire d'excédent commercial. Le chemin à parcourir pour réduire les équilibres extérieurs chinois restera donc très long. Mais on peut noter des précédents intéressants qui peuvent amener les pays asiatiques à large surplus à se réformer. En 2002, par exemple, Taïwan a instauré une couverture maladie publique obligatoire. Et en l'espace de 3 à 4 ans, le taux d'épargne des Taïwanais s'est abaissé de près de 4 à 5 points. Il est passé en gros de 17% du revenu disponible des ménages à 12%. Il y a là certainement une source d'inspiration pour les réformateurs en Chine populaire. Je voudrais maintenant conclure sur le rôle que peut potentiellement jouer le G20 dans la coordination des politiques économiques. Cette nouvelle institution a joué à l'évidence un rôle utile dans la gestion de la crise financière qui a frappé l'économie mondiale. La tâche n'était pas facile, avec le risque notamment que certains pays se comportent en passagers clandestins et laissent à d'autres le fardeau de la régulation macroéconomique. Mais en moyenne, tous les pays avaient un intérêt bien compris à gérer ensemble un choc commun. Et chacun avait besoin, pour son propre compte, de soutenir la conjoncture domestique. S'agissant en revanche du rééquilibrage des balances commerciales, La nature de la coopération se présente de manière assez différente. Il faut prendre sur le plan intérieur des mesures difficiles et peut-être coûteuses politiquement pour améliorer les équilibres mondiaux. On peut penser par exemple à la réduction des déficits publics aux États-Unis et à la mise en place d'un système de protection sociale en Chine populaire. Et ce sera là un test important de la robustesse du G20 et des ambitions qu'il peut nourrir pour améliorer la gouvernance mondiale, c'est-à-dire prendre des mesures difficiles en interne structurellement pour améliorer le bien-être collectif mondial et pas seulement, comme on vient de le faire, soutenir chez soi la conjoncture en se disant que par ailleurs, ça aura de bonnes externalités à l'étranger. Voilà, pour conclure, donc, les questions de régulation macroéconomique internationale dépassent souvent la sphère technicienne. Elles incorporent souvent des facteurs géopolitiques. Et avec l'extension de la mondialisation, nous assistons à la cohabitation économique de régimes politiques particulièrement, potentiellement très différents. Et ceci constitue une source de friction qui ne facilite pas la gouvernance mondiale.
Les participants à notre assemblée, ou en tout cas la plupart d'entre eux, ont connu au cours de leur vie professionnelle 5 récessions, dont 2 récessions majeures, celle de 1975 et celle de 2009. La dernière d'entre elles est de loin la plus grave par son ampleur et par sa brutalité. Je rappelle qu'en 1975, le produit intérieur brut annuel avait reculé d'environ 1 point, 1%, en Europe comme aux États-Unis. En 2009, il a reculé de 3% aux États-Unis et de 4% en Europe. Le recul de 2009 est donc beaucoup plus fort, et j'ajoute au passage qu'il s'applique à une tendance qui était bien plus faible. Avant 1975, la croissance tendancielle des pays développés était de l'ordre de 4 à 5 points l'année, 5 points par an. Avant 2009, dans les années antérieures, je parle de l'Europe et des pays développés, elle était moitié moindre. Donc on a une crise plus forte, un recul beaucoup plus fort qui s'applique à une tendance beaucoup plus faible. Ceci témoigne des changements qui se sont opérés au cours de ces 40 années. Pour interpréter la crise, il faut tenter, je pense, d'en démêler les principales composantes. La dynamique économique est toujours, à mes yeux, gouvernée par l'interférence de 3 forces. Ces forces résultent de chocs, des tendances profondes et du cycle économique. À très court terme, c'est-à-dire à l'horizon de 3 à 4 trimestres, l'effet prédominant est celui des chocs. À court-moyen terme, disons sur 2-3 années, c'est le cycle qui reprend ses droits. Et à plus long terme, sur 5 à 10 ans, c'est la tendance longue qui l'emporte. Cette grille de lecture peut permettre, je pense, d'éclairer l'interprétation de la crise et peut-être aussi un peu celle de la sortie de crise. La profondeur de la récession est venue, à mon sens, de la conjonction de 2 mouvements. D'une part, un retournement cyclique classique, après une période d'expansion forte qui commençait à buter sur des hausses de prix. Ça, c'est, disons, 2007. D'autre part, un choc financier d'une violence inouïe qui a remis en cause la confiance dans tout le système financier et suscité un véritable effet de panique généralisé. Ça, c'est 2008. Aujourd'hui, l'effet de panique est largement derrière nous, et l'économie réelle revient assez rapidement vers sa trajectoire naturelle. Mais à ce stade, le cycle économique est encore loin de la reprise. Il entre dans une longue convalescence qui passe par un désendettement des acteurs privés puis publics et par une résorption des capacités de production très largement excédentaires. Pour donner des ordres de grandeur, le rebond peut conduire à des taux de croissance très temporairement de l'ordre de 3% l'an en rythme annuel dans les pays développés sur 2-3 trimestres. C'est ce que l'on observe actuellement. La composante cyclique qui va rapidement dominer n'autorise guère beaucoup plus de 1% l'an. On retombera donc, avant la fin 2010, sur ce socle relativement modeste. C'est le schéma macroéconomique qui me semble le plus vraisemblable pour les prochaines années. Rattrapage d'encore un ou deux trimestres, croissance durablement molle par la suite, pendant au moins 2 à 3 années, véritable reprise seulement par la suite, lorsque l'incitation à investir et la capacité d'endettement se seront reconstituées. La France est dans le mouvement général. Si les choses se passent bien ainsi, on peut donc dire que la crise est finie, mais que la reprise n'est pas encore là. À défaut de faire un bilan de la crise encore prématurée, quels enseignements peut-on, au stade actuel, en tirer? Je vous en propose quelques-uns. Le premier enseignement est le rôle majeur joué par l'aversion au risque dans les comportements des acteurs économiques. C'est, à mon sens, la première fois qu'on rencontre ça avec une telle ampleur. Au cours des années qui avaient précédé la récession, dans les années 2000, ce qui surprenait les observateurs était la quasi-disparition des primes de risque, comme si les agents considéraient que le risque avait définitivement disparu du paysage économique. Cette vision excessivement optimiste et bien évidemment erronée a conduit certaines banques d'investissement, des institutions de crédit et aussi les ménages, notamment américains, à prendre des risques excessifs. La prise de conscience subite de la réalité du risque, amplifiée à l'extrême par l'échafaudage de la titrisation et par son opacité, a conduit aux effets de panique et aux surréactions violentes d'il y a un peu plus d'un an. On a appris, en particulier, que des marchés pouvaient se trouver complètement illiquides et par conséquent hors d'état de fonctionner et de jouer leur rôle. Deuxième enseignement, largement souligné ici et là, concerne le caractère global de la crise. On a souvent dit que c'était la première crise de la mondialisation. À vrai dire, la première alerte de la mondialisation avait été la crise pétrolière de 1974, lorsque, pour la première fois, la croissance avait buté sur les disponibilités mondiales de ressources naturelles. Contrainte mondiale. Le résultat a été, comme vous le savez, la première récession synchrone d'une large partie du monde. Mais à l'époque, la croissance globale n'était pas tombée à moins de 2% l'an, alors qu'elle a été négative en 2009. La focalisation sur les aspects financiers de la crise dans la période récente ne doit pas faire oublier que la hausse des prix des ressources rares a été cette fois encore le premier déclencheur de la récession. Le choc de prix du pétrole et des matières premières a certes été plus étalé qu'en 1974, mais il en est proche en termes d'amplitude. Et avant même la crise financière, le choc pétrolier avait poussé l'inflation mondiale à des niveaux préoccupants qui impliquaient en tout état de cause un net ralentissement de la croissance, et peut-être même une petite récession. Troisième enseignement, il concerne le fonctionnement de l'économie de marché mondialisée. Les racines de la crise économique et financière actuelle sont évidemment multiples. On peut invoquer et on invoque souvent la cupidité des hommes, les insuffisances de la supervision financière, les excès de l'économie de marché, une réforme intempestive des normes comptables, bien sûr. Tout cela est vrai et explique pourquoi les déséquilibres financiers ont pu prospérer. Mais cela n'explique pas Pourquoi les déséquilibres macroéconomiques sont apparus et se sont autant amplifiés. Pour cela, il faut revenir sur les conditions particulières de la forte croissance mondiale des années 2000 et sur la dynamique perverse qui s'est alors instaurée avant la crise. Le monde entier s'est converti à l'économie de marché dans les années 90. L'économie de marché et génératrice de croissance. Cela a été dit d'ailleurs avant moi. Mais sa dynamique est cyclique. Les cycles ne sont pas le signe de déséquilibres fondamentaux, mais de déséquilibres temporaires avant le retour vers l'équilibre, un peu comme le balancement d'un pendule autour de la verticale. Encore faut-il pour cela que pour les déséquilibres se résorbent, que les ajustements des quantités et des prix puissent s'opérer. Or, cette condition n'est plus remplie aujourd'hui. Un géant est entré il y a 10 ans dans le commerce mondial sans entrer dans le marché des capitaux mondial. Une variable économique clé des ajustements, qui est le taux de change du yuan chinois, est bloquée à un niveau d'ailleurs très bas. Cette anomalie a créé dans les années 2000 un enchaînement simple que l'on peut résumer ainsi. Accumulation d'excédents extérieurs chinois considérables, recyclage de ces excédents sur les marchés financiers mondiaux pour éviter la montée du yuan, avec une offre considérable de capitaux, des taux d'intérêt à long terme extrêmement bas, que M. Greenspan, pendant un certain temps, ne comprenait pas d'ailleurs, il n'était pas le seul, trop bas pour un monde en croissance forte, effet de levier généralisé dans les secteurs de l'immobilier, des fameux LBO, c'est-à-dire les rachats d'entreprises financés par de la dette, et de certains fonds d'investissement. Excès de crédit et d'endettement, de demande de dette par les ménages, augmentée par les techniques de la titrisation, hausse des prix des actifs, baisse du taux d'épargne dans les pays développés, surtout aux États-Unis, grâce à l'effet ou l'illusion de l'enrichissement. Bref, la cause profonde des déséquilibres n'est pas un excès d'économie de marché, c'est plutôt un grippage de l'économie de marché. C'est plutôt un grippage donc, de cette économie de marché à l'échelle mondiale parce qu'une variable clé, au moins, est volontairement contrainte. Et le problème est que cette cause profonde de déséquilibre est toujours présente après la crise, prête à recréer des phénomènes pervers. Quatrième enseignement, c'est que l'économie mondiale peut difficilement soutenir durablement une croissance proche de 5% l'an, sans buter sur la disponibilité et le prix des ressources naturelles. Or, si la récession mondiale a été très forte, elle a aussi été de courte durée. Dès le troisième trimestre 2009, le taux de croissance mondial a retrouvé ses points hauts antérieurs au voisinage de 5% l'an. Ce taux est dû, bien sûr, à la vigueur des pays émergents et principalement, on retrouve la Chine. Les prix du pétrole et des matières premières se sont aussitôt nettement retendus. Cette situation montre que la croissance forte bute sur un problème de partage mondial, c'est-à-dire sur une forme de conflit entre pays développés et pays émergents. Enfin, le cinquième enseignement est que les États ont appris les gestes qui sauvent. Dans l'ensemble, à la différence des années 30, les tentations protectionnistes ont été contenues et les échanges mondiaux préservés. Surtout, un soutien sans limite du système financier et un policy mix extrême dans ces décisions ont permis de repousser la menace d'un processus cumulatif et le risque d'une dépression économique durable. Ce que nous ne savons pas, car nous n'avons n'ont jamais eu l'expérience dans le passé. On a eu l'expérience de la crise de 29, mais la sortie de la crise de 29 était dans un contexte très particulier, qui n'est pas du tout le contexte d'aujourd'hui. Ce que nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas eu cette expérience, c'est le bon chemin du retour à la normale. À quel rythme réduire les déficits publics? Dans quel délai ramener les taux d'intérêt et la liquidité mondiale à un niveau d'équilibre soutenable? Trop vite, c'est pas bien, mais trop lentement, c'est pas bien non plus. Enfin, comment piloter collectivement des économies en fortes interactions, des économies nationales qui interagissent fortement, comme on l'a vu, mais dont les intérêts sont clairement divergents. Le G20 est, à mes yeux, une innovation institutionnelle majeure issue de la crise. C'est peut-être la plus grande innovation issue de cette crise. C'est, je pense, un bon format pour trouver des compromis entre stratégie de conflit et stratégie de coopération. Il faut vraiment souhaiter qu'ils réussissent, au-delà de l'urgence liée à la crise, à se saisir des questions plus structurelles, dont évidemment celle des changes. Merci de votre attention.
Merci. La parole est à monsieur de la Rosière.
Merci. Tout a été dit, alors je serai très bref. La question est comment s'assurer que de tels événements ne vont pas se reproduire. Certes, nous savons bien qu'il y aura toujours des crises financières, mais celle que nous traversons est, je crois, unique par la nature de ses causes, par son ampleur et la violence de ses effets. Alors je ferai deux remarques très brèves. La première a trait aux causes profondes de la crise et la seconde à la question comment éviter le retour à de pareils phénomènes. Alors, le premier point, c'est vraiment les déséquilibres macroéconomiques qui ont été abordés. C'est la conjonction de déficits massifs et persistants des balances des paiements courants des États-Unis et d'excédents structurels chez des pays comme la Chine, le Japon, le Moyen-Orient, qui a été à l'origine profonde de la crise. Les pays créditeurs ont souhaité fixer leur parité, notamment les Chinois, sur celle du dollar, afin de ne pas perdre de leur compétitivité, ce qui les a amenés à acheter du dollar pour des montants inouïs. Or, ces interventions sont l'acte créateur de monnaie, je dirais, essentiel. Ces interventions ont donc joué un rôle majeur dans l'abondance des liquidités, qui a été observée depuis une dizaine d'années avant la crise, et dans le maintien des taux d'intérêt à des niveaux très bas. Les taux d'intérêt sont restés autour de zéro si l'on tient compte des anticipations inflationnistes. Alors quand ça arrive sur une période courte, ça ne présente pas beaucoup d'inconvénients. Quand c'est sur une période longue, ça a des effets désastreux sur l'économie. On comprend que dans un tel contexte de facilité monétaire, l'endettement se soit envolé, la croissance du crédit aux États-Unis et en Europe a systématiquement et de beaucoup dépassé la croissance de l'économie réelle. Les graphiques que je ferai circuler sont très révélateurs à cet égard. Et l'innovation financière a accusé ce phénomène, on l'a dit, l'usage excessif de la titrisation a permis aux banques, à fonds propres inchangés, de consentir un volume toujours croissant de nouveaux crédits. Il en est résulté beaucoup d'investissements et un excès de capacité productrice que nous devons aujourd'hui résorber. La croissance économique a été pour un temps favorisée par cet emballement du crédit, mais lorsque le marché des subprimes s'est effondré à l'été 2007, les investisseurs ont pris peur et c'est l'ensemble des marchés de crédit qui ont perdu leurs acheteurs et donc leur liquidité. Le prix de ces débordements est élevé, une profonde récession et la montée du chômage. La crise est donc pour beaucoup, et c'est ça que je voulais souligner, le résultat d'une politique monétaire laxiste, particulièrement aux États-Unis, qui ont en fait joué le rôle de banque centrale mondiale. Les banques centrales, rassurées par la modération de l'inflation des prix des biens et des services, modération qui explique en partie les exportations chinoises à faible coût de main-d'œuvre, n'ont guère réagi à la montée des périls, ni la croissance excessive de la masse monétaire et du crédit, ni le gonflement des bulles d'actifs ne les ont incités à resserrer à temps leur politique monétaire. Et pour éviter un effondrement du système financier, ces mêmes banques centrales n'ont eu d'autre choix que de fournir massivement de la liquidité aux institutions financières à la recherche de financement. Alors, mon dernier point, comment éviter le retour à de tels errements ? Il faut d'abord s'attaquer à la cause profonde. Que sont les déséquilibres macroéconomiques ? Il faut détecter à temps les risques du système et prendre des mesures concrètes pour les corriger. C'est ce qui a amené le comité que j'ai animé à proposer la création en Europe d'un conseil du risque systémique sous l'égide de la Banque centrale européenne. Ce conseil comprendra les banques centrales, les régulateurs et superviseurs financiers de l'Union européenne. À ce conseil reviendra la responsabilité de sonner l'alerte quand il est encore temps et de proposer des mesures concrètes pour éviter les dérives. Ce modèle suscite de l'intérêt hors d'Europe et notamment aux États-Unis. Mais il ne sera véritablement efficace que s'il s'applique globalement. Je souhaite que les États-Unis et la Chine, qui bloquent aujourd'hui par la fixité de son taux de change l'ajustement, acceptent de jouer le jeu et de donner leur appui à cet effort de surveillance multilatérale, ainsi que le G20 l'a recommandé récemment. Il faut aussi que la future réglementation financière soit adaptée aux risques d'aujourd'hui et soit donc profondément remaniée. On s'y emploie sur le plan international en proposant des règles de fonds propres et de liquidités qui soient à la fois réalistes, pertinentes, afin d'éviter le retour aux pratiques du hors-bilan qui ont permis à certaines banques d'échapper à la contrainte réglementaire. Mais il faudra raison garder et ne pas compromettre le retour à la croissance par l'accumulation de règles trop pénalisantes et indifférenciées, comme l'a dit Michel Perrault, qui pourraient exagérément freiner le financement de l'économie. Enfin, il faut que ces règles soient les mêmes pour tous les acteurs, ce que nous avons proposé au niveau européen, en donnant un certain nombre de pouvoirs de décision à 3 agences de supervision financière européenne, dont nous avons recommandé la création. Il faut faire ça sur le plan mondial, et il faut également que ces règles soient appliquées. À mon sens, le Fonds monétaire aura un rôle déterminant à jouer à cet égard. Alors, ces recommandations sont vastes dans leur portée. Il ne faut pas se dissimuler qu'elles ont, derrière leur apparence technique, une nature politique. Sans la coopération de tous, et en particulier des États-Unis et de la Chine, qui sont les deux grandes sources des déséquilibres, et leur accord pour ajuster leur politique intérieure, comme on l'a dit, afin de contribuer à un meilleur équilibre global, nous risquerions de nouveaux déboires à échéance relativement brève. Les enjeux sont majeurs et le temps est compté. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance exceptionnelle à l'Académie des sciences morales et politiques dans laquelle 5 intervenants ont présenté un bilan de la crise à la fin de l'année 2009.